Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. J'espère que vous allez bien. 14 novembre 17, ça va vite déjà, la mi-novembre. Hélène Denis qui vous accompagne. Bien le bonjour, Maurice.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, toi?
Oui, oui, oui. Alors moi, je vous vois, vous me tutoyez.
OK.
Ça va comme
non,
ça.
Non, je peux vous voyez, ça ne me dérange pas.
Non, mais c'est comme ça. Okay. Non, mais je trouve ça sympathique. Alors, je vous écoute, on vous écoute, puisque les auditeurs sont tout oui. C'est
pour
les
ce
éphémérides.
14, oui, c'est 14 novembre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète, pour ça, c'est en soulignant aussi. Pardon. L'anniversaire de Frédéric Banting, qui, avec Charles Best, ont été les premiers à développer la théorie à l'origine de la découverte de l'insuline en 1922.
Ah oui.
Donc, bonne chose pour les ceux qui souffrent du diabète.
1922, ça veut dire 95 ans.
Déjà, pour l'insuline. Quelques dates. En 1606, à Port-Royal, Marc Lescarbot présente Théâtre de Neptune. C'est le premier spectacle européen donné en Amérique du Nord. C'est en français, en gascon et en micmac. Et ça me fait penser justement au film qui va sortir très bientôt, là. Hochelaga.
Terre des âmes.
Sort au mois de janvier.
De François Girard.
Oui, on a hâte de voir ce que ça se passe. Entre autres, on parle en amérindien, en français, en anglais, mm-hmm. Donc toutes sortes de langues.
Ça a été présenté en première mondiale cet été à Montréal, mm-hmm. puis dans le cadre du TIFF à Toronto. Puis les échos sont fort positifs.
Et on l'attend dans un mois et demi, donc au mois de janvier, donc dans deux mois à peine. En 1775, les forces américaines conduites par Benedict Arnold envahissent le Québec. 1851, c'est l'apparition de Moby Dick de Herman Melville. En 1889, pour le quotidien World, Nelly Bly s'embarque à New York et boucle et va faire le tour de la Terre, de la planète, en 72 jours. Et ça bat la marque imaginaire du Tour du monde en 80 jours qui avait été écrit par Jules Verne quelques années précédemment. En 1907, c'est l'apparition du mouvement Scout. En 1971, l'organisme d'entraide Médecins sans frontières est créé suite à une famine au Bangladesh. En 1975, la ville de Montréal risque la cessation de paiement. C'est Québec qui crée la régie des installations olympiques pour mener à bien le vaste chantier des Olympiques qui suivront quelques mois plus tard en 1976. En 1982, pour un huitième mandat, Jean Drapeau est élu maire de Montréal.
Combienième?
C'était le huitième en 1982. Et peut-être son dernier, je pense. Il me semble que Jean Doré va y rentrer l'année des élections suivantes.
Il a dû battre le record, hein?
Faudrait vérifier.
Oui, mais huit mandats, c'est
beaucoup.
Quelque chose.
Oui, oui, oui. En 1994, le train du tunnel sous la Manche transporte ses premiers passagers payants. En 1995, le gouvernement fédéral américain ferme, sauf pour les services essentiels, suite à l'impasse budgétaire entre le président et le congrès majorité républicaine. Il me semble que ça arrive aux 2-3 ans. Il pète le plafond budgétaire aux États-Unis. L'an 2000, la Cour supérieure maintient l'école française obligatoire au Québec pour les enfants dont aucun des parents n'a fréquenté l'école anglaise. En 2005, Ottawa confirme que des gaz moutarde, phosgène et autres armes chimiques ont été jadis été jetés dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Sale pollution.
Ouais.
En 2006, le Parlement sud-africain adopte une loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe. Oui, c'est donc une première en Afrique. Quelques naissances. Jean Ier, le posthume roi de France, est né en 1316. 1719, Léopold Mozart, violoniste, compositeur austro-allemand. Le père de Wolfgang Amadeus, mm-hmm. lui, naît en 1719. Le peintre français Claude Monet naît en 1840. Charles d'Angleterre, le prince de Galles, lui, c'est notre prince Charles, naît en 1948. Et comme décès, on en souligne un, Dupuis, et on le dit, le pionnier belge, la bande dessinée, éditeur de Spirou, les éditions Dupuis, donc lui, était né en 1918 et mort en 2002.
Merci beaucoup.
Et voilà, ça fait le tour des dates du 14 novembre.
À la une de la presse exclusif, jeunes et alcool, une intoxication grave tous les deux jours. Les trois quarts des jeunes qui consultent pour une urgence médicale liée à l'alcool ont bu des boissons fortement alcoolisées. Et dans un cas sur quatre, leur vie est en danger, révèle une étude obtenue par la presse. Arme létale autonome, les robots tueurs, prochaine arme de destruction massive? L'analyse de Denis Lessard, Toronto rira-t-il le dernier? En coulisses, à Québec, on redoute les dommages collatéraux d'une vente de feu de Juste pour rire. Et toujours à la une de la presse, sport, le Canadien, une pression salutaire. Le gardien Charlie Lindgren, c'est la chance qu'il a de porter le chandail tricolore et il l'a saisi avec brio. Une intoxication grave tous les deux jours, c'est un dossier signé Caroline Touzin. Un problème fréquent, pédiatre aux soins intensifs, le docteur Claude Cyr a souvent vu des jeunes atterrir aux urgences gravement intoxiqués à l'alcool au point où ils doivent être intubés et mis sous respirateur. Mais le phénomène n'avait jamais fait l'objet d'une étude scientifique au Québec avant aujourd'hui. Tous les deux jours, un jeune Québécois consulte pour une urgence médicale liée à l'alcool, a découvert le docteur Cyr, aussi chercheur, après avoir analysé les consultations aux urgences des deux hôpitaux de Sherbrooke des patients âgés de 12 à 24 ans entre 2012 et 2017. Je savais qu'on en voyait régulièrement, mais quand on se met à les compter, ça devient impressionnant. C'est vraiment beaucoup de consultations dans nos urgences, lance le docteur Cyr en entrevue à la presse. Le médecin présente ses conclusions. Conclusion donc tirée d'une étude menée par le Dr Cyr, qui a été commandée par l'organisme Sherbrooke Ville en Santé et réalisée en collaboration avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Donc, le médecin présente ses conclusions en primeur aujourd'hui à un congrès national sur les dépendances qui se tient à Calgary. On parle de patients très malades. Ce n'est pas juste une brosse puis je vomis dans le caniveau, illustre le docteur Cyr. Le quart des jeunes patients ont été admis au triage des urgences avec un niveau de priorité 1 ou 2, indiquant que leur vie était en danger. Plus de la moitié des jeunes, 57 % présentaient des complications comme un coma, des lésions à la tête ou de l'hypothermie. Lorsqu'on prend de l'alcool, ça altère notre jugement. On a vu beaucoup de patients dont les blessures résultaient d'une bagarre, décrit le docteur Cyr. Moins grave, mais très gênant, 6 % des patients ont été victimes d'incontinence durant leur transport en ambulance ou à leur arrivée aux urgences. Une petite proportion de patients, 1 % a subi un traumatisme sexuel. Les trois quarts des jeunes qui se sont présentés aux urgences pour une intoxication avaient bu des boissons à forte teneur en alcool, spiritueux ou boissons pré-mélangées avec spiritueux. Souvent, on pense que les jeunes finissent à l'urgence parce qu'ils ont mélangé alcool et drogue illicite, précise le docteur Cyr. Or, dans notre étude, 71 % des jeunes avaient pris juste de l'alcool. Cette étude déboulonne plusieurs mythes, se réjouit Catherine Paradis, analyste principale recherche et politique au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Les gens de l'industrie des boissons alcoolisées nous font valoir que ce ne sont pas leurs produits qui causent des méfaits, que les jeunes les mélangent avec des drogues illicites, indique Mme Paradis. Avec cette étude, on a maintenant la preuve scientifique que les spiritueux causent plus de méfaits que les autres. Passer une soirée sur le fort, ce n'est pas comme aller prendre une bière. Même dans le milieu médical, l'intoxication à l'alcool chez les jeunes est trop souvent banalisée, déplore le Dr Cyr. Aide aux victimes d'agressions sexuelles, le fonds d'urgence est largement insuffisant selon les organismes. Une cinquantaine de groupes communautaires recevront entre 10 000 et 30 000 $ du fonds d'urgence annoncé le mois dernier par le gouvernement Couillard pour aider les victimes d'agressions sexuelles. Pour plusieurs groupes, ce coup de pouce ponctuel est largement insuffisant. L'argent de Québec permet au groupe de fournir davantage de services à leur clientèle. Une somme de 10 000 $ permet d'embaucher une intervenante pour environ 3 mois, illustre la porte-parole du RQ CALAC, Stéphanie Tremblay. Dans plusieurs cas, les délais d'attente sont si longs que l'argent frais ne permettra même pas de les éliminer, encore moins d'accueillir les nouvelles victimes qui, chaque jour, communiquent avec les centres. « Ça va aider, c'est certain. On ne peut pas dire que ça va nuire », dit Mme Tremblay. Mais ce n'est même pas suffisant pour répondre à l'augmentation des demandes qui est due à la conjoncture actuelle. Les intervenants joints par la presse au cours des derniers jours sont unanimes. L'argent est le bienvenu, mais les sommes sont nettement insuffisantes. À la traversée, sur la rive sud, les victimes qui souhaitent être suivies en thérapie doivent patienter jusqu'à 1 an et demi sur la liste d'attente. Le directeur de l'organisme, Philippe Anger, lance un cri du cœur, selon sa propre expression. Il soutient que les 28 000 $ qu'il a reçus en aide ponctuelle n'auront qu'un effet minime sur la capacité de l'organisme à intervenir efficacement auprès des victimes. La Fondation Marie-Vincent à Montréal reçoit 5 fois plus d'appels qu'à la normale ces jours-ci. Le nombre de demandes de prise en charge a doublé. Le gouvernement Couillard a annoncé la tenue d'un forum de réflexion sur les agressions sexuelles le mois prochain. Or, selon la députée du Parti québécois, Catherine Fournier, Québec aurait plutôt dû augmenter le financement des organismes communautaires. Le gouvernement Couillard n'a pas indiqué hier si le financement des organismes communautaires sera révisé à la hausse. Après sa fermeture, une école de Villeray revit. Les élèves de l'école Saint-Gérard, fermée depuis près de 6 ans pour cause de moisissures, emménagent aujourd'hui dans leur école flambant neuve. Mais ils pourraient devoir la partager dès l'an prochain avec des élèves du quartier Hunsic. Après des années à faire la navette entre leur résidence et leur école temporaire située à l'école secondaire Georges Vanier, les 430 élèves de l'école primaire du quartier Villeray feront ce matin le chemin à pied vers leur nouvelle école, accompagnée de leurs enseignants. Membre du comité de suivi des travaux, Marie-Julie Côté a été très critique de la gestion du chantier par la Commission scolaire de Montréal, lequel a été ponctué de rebondissements et de retours à la planche à dessin. Après des années d'attente, elle verra ce matin ses 3 enfants entrer dans la nouvelle école. « Je suis vraiment contente. Je pense qu'il faut regarder le positif, mais ça a été un gros dossier jusqu'à la fin. » Ils voulaient nous faire déménager à Noël. On s'est battu pour déménager le plus tôt possible, dit Marie-Julie Côté. La valse des déménagements d'écoliers ne s'interrompt pas. La valse des déménagements d'écoliers ne s'interrompt pas pour autant à la CSDM. Dès la rentrée prochaine, ce sera au tour de ceux de l'école Christ-Roi dans le quartier Hunsic de quitter leur école le temps qu'elle soit agrandie. 9 classes et un gymnase doivent être ajoutés. La fin des travaux est prévue pour 2019-2020. Comme à bien des endroits à Montréal, les écoles primaires du quartier Villeray débordent. Elles affichent tout un taux d'occupation au-delà de 100 % et il manque environ 20 locaux de classe dans ce seul quartier, peut-on lire dans les documents de la CSDM. La Ville de Brossard interdit la nudité dans les vestiaires. La Ville de Brossard a décidé d'interdire toute nudité à l'intérieur des vestiaires de ses piscines municipales, un règlement très délicat qui soulève des questions chez certains citoyens. La municipalité de la Rive-Sud a annoncé à ses résidents dans le bulletin d'information mensuel qu'elle ne permettrait plus aux hommes ou aux femmes de marcher nus dans leurs vestiaires respectifs et dans les douches. Pour l'instant, la sanction n'est qu'un simple avertissement. Si la mesure a été renforcée, c'est qu'on a eu plusieurs plaintes des parents avec des enfants qui ne voulaient pas que l'enfant soit exposé au corps de l'autre personne, mais également des gens qui étaient mal à l'aise, dit Éric Luenberger, directeur adjoint au service des loisirs à la Ville de Brossard. Roland Bérard, qui habite depuis 30 ans à Brossard, qualifie ce nouveau règlement de rétrograde. Ce nouveau règlement est imposé alors que Brossard est en train de construire un nouveau complexe aquatique au coût de 45 millions où les espaces seront universels et non divisés en vestiaires pour les hommes et les femmes. Ce genre d'espace est répandu dans tout le Canada et en Europe, dont en Suisse, en France et en Belgique. Les installations devraient ouvrir leurs portes en 2019. Le représentant de la ville a défendu le nouveau règlement qu'il considère comme nécessaire et qui doit s'appliquer à tous les citoyens sans exception, selon lui.
Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux, la même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Thomas Dutronc qui nous chantait Le Loup, La Biche et Le Chevalier, une chanson douce.
En une du Devoir, séisme, l'Iran pleure ses morts. C'est jour de deuil national ce mardi en Iran, alors que le pays pleure plus de 400 morts à la suite du séisme survenu dimanche soir. Lundi, les opérations de sauvetage se sont poursuivies dans l'ouest du pays dans l'espoir de retrouver des survivants. Quelques provinces de l'Irak voisin, où on comptait 8 morts lundi soir, ont également été touchées par ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,3. Élection fédérale, le dépôt de candidature de 1 000 est aboli. Un jugement rendu en Alberta ouvre la porte à une présence plus forte des petits partis. L'humanité court à sa perte, préviennent 15 000 scientifiques. Corée du Sud, K-pop ou K-pop, l'art d'influencer le reste du monde. L'État a investi massivement dans la culture populaire pour faire rayonner le pays. Alors, on voit une photo de deux artistes habillés en rouge, spectacle du chanteur sud-coréen J-Dragon à Brooklyn en juillet dernier. « Le programme fédéral d'infrastructure au ralenti. Des milliards dorment dans les coffres en raison de la bureaucratie, de la météo et des conflits de travail. Saisie de l'UPAC, Tony Accurso n'a pas interrogé ses hommes de confiance. Douloureux souvenir des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, alors qu'on voit une photo montrant le président français Emmanuel Macron en train de faire l'accolade à un homme. Et finalement, revenu minimum garanti, le PQ et QS dénoncent le rapport du comité d'experts du gouvernement. Crise climatique de plus en plus impossible à enrayer, croissance rapide de la population mondiale, extinction massive d'espèces et destruction généralisée des milieux naturels, le péril auquel fait face l'humanité ne cesse de grandir, préviennent plus de 15 000 scientifiques dans une mise en garde commune d'une ampleur sans précédent publiée lundi. En 1992, un groupe de 1 700 scientifiques, dont plusieurs lauréats du prix Nobel, signait un premier avertissement dans lequel il détaillait les raisons qui poussaient l'humanité vers une collision frontale avec l'ensemble du monde vivant en raison de notre gestion de la Terre et de la vie qu'elle recèle. Or, depuis 25 ans, la réponse de l'humanité se résume à un échec quasi généralisé. Non seulement l'humanité a échoué à accomplir des progrès suffisants pour résoudre ses défis environnementaux annoncés, mais les 13 inquiétant de constater que la plupart d'entre eux se sont considérablement aggravés, affirment pas moins de 15 364 scientifiques provenant de 184 pays dans un manifeste publié lundi dans la revue Bioscience, mais aussi en français sur le site du journal Le Monde. En plus de la nécessité de se tourner massivement vers les énergies renouvelables et de mettre fin au soutien financier aux énergies fossiles, les auteurs insistent sur l'importance de réduire le taux de fécondité par une généralisation de l'accès à l'éducation et au planning familial. Les scientifiques suggèrent aussi de promouvoir une réorientation du régime alimentaire vers une nourriture d'origine essentiellement végétale et de réduire le gaspillage alimentaire. Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l'échec, car le temps presse, conclut-il. Si vous pensiez le parti rhinocéros disparu dans la nature, sachez qu'il pourrait revenir en force, tout comme le parti marijuana et le parti communiste d'ailleurs. Car une récente décision d'un tribunal albertain a invalidé l'obligation pour tout candidat à une élection fédérale de verser un dépôt de 1 000 $. Les petites formations politiques estiment que leur recrutement s'en verra facilité. La décision Sous-Chouvitz Canada a été rendu sans tambour ni trompette le mois dernier et Ottawa a jusqu'au 27 novembre pour la porter en appel. Appel ou pas, Élections Canada l'appliquera pour les 4 élections partielles fédérales devant se tenir le 11 décembre prochain en n'exigeant aucun dépôt. La juge Avril Inglis a donné raison à Kieran Zuchowitz, un citoyen qui avait tenté de se présenter en 2015 comme indépendant contre Stephen Harper. Elle a reconnu que l'exigence d'un dépôt viole l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés stipulant que tout citoyen canadien est éligible aux élections législatives. Dans la foulée du mouvement d'allégations d'agression ou de harcèlement sexuel, moi aussi survenu sur les réseaux sociaux, le Collège des médecins du Québec a reçu 3 plaintes du public en un mois et invite les personnes qui auraient subi une forme ou une autre d'inconduite sexuelle à faire de même. Dans un communiqué diffusé lundi, la Corporation médicale a rappelé que sa politique de tolérance zéro à l'égard de ce genre de comportement s'appliquait non seulement aux relations entre médecins et patients, mais aussi aux employés, aux stagiaires ou toute autre personne appelée à être en contact avec un médecin. Le Collège des médecins a confirmé que le médecin visé par la poursuite en question faisait effectivement l'objet d'une enquête disciplinaire de la part du bureau du syndic et qu'une comparution devrait avoir lieu sous peu. Selon des chiffres obtenus du Collège, le syndic de la Corporation des médecins a reçu depuis 5 ans 65 plaintes liées à des cas d'inconduite sexuelle, dont 23 seulement ont donné lieu à la comparution des médecins visés. Rodrigo Duterte a tout mis en œuvre afin d'obtenir une invitation pour permettre à Justin Trudeau d'assister à un prestigieux événement sur la sécurité en Asie-Pacifique aux côtés de puissants chefs d'État, selon des responsables gouvernementaux. Mais un employé gouvernemental de haut rang assure que le geste serviable du président philippin n'aura aucune incidence sur la décision de Justin Trudeau de parler ou non à M. Duterte des violations des droits de la personne dans son pays d'Asie du Sud-Est qui ont choqué à travers le monde. Grâce aux efforts de Rodrigo Duterte, Justin Trudeau aura l'occasion convoitée mardi de participer à un déjeuner de travail à Manille avant le sommet de l'Asie orientale sous le leadership de l'ANAS. M. Trudeau se joindra aux dirigeants de 18 pays, dont la Chine, la Russie et les États-Unis, pour discuter d'enjeux de sécurité. Il reste à voir si Justin Trudeau défiera Rodrigo Duterte en tête-à-tête quant à sa violente guerre contre la drogue. La répression sanglante de M. Duterte comprend des exécutions extrajudiciaires par son gouvernement qui ont fait des milliers de morts. Béatrice Vaugrant, d'Amnesty International pour le Canada francophone, trouve indécent que cet enjeu ne soit pas mis sur la table d'emblée par les chefs d'État et, selon elle, il faut créer cette occasion d'en parler à M. Duterte. Merci d'écouter les voix de service quotidien et je vous souhaite un agréable mardi 14 novembre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne et je vous invite à rester là pour la suite de l'émission avec la revue de presse, entre autres, du Journal de Montréal. Mentira.
Mentira é bicho feio, no meio do salão. Sai fora do compasso, perde o passo e perde o pé. Pisa no calo, caloteira que ela é. Destrói a fé do homem e o coração da mulher. Mentira,
mentira.
Onde anda o meu amor?
Que passa com que amor?
Ficou cansado, bateu asas e
mentiras como piedra en el jardín de nuestro amor. Mentiras como hiedra que en tu cuello se enredó. Va sofocando corazones por doquier. Al hombre lo hace débil y destruye a la mujer.
A mi chira quasi mi mató.
Y a mi corazón lo destrozó.
Nunca más yo voy a mentir.
No te quiero hacer sufrir. Que nuestro amor no se podrá morir. Que nuestro amor no se podrá morir.
Perdida, arrepentida, llorando de amor.
On vient d'entendre Bia et Mlle Ruiz qui, elle, nous chantait « Mentira ».
À la une du Journal de Montréal, grande sortie de Price, son début de saison chancelant et son absence de la compétition depuis 12 jours n'ont pas affecté la popularité du gardien qui a attiré les regards hier à la collecte de sang annuelle du Canada, du Canadien plutôt, et il a d'ailleurs son chandail du Canadien et il porte non pas un casque de gardien de but, mais plutôt un chapeau de cow-boy noir. Dans cette ville de la Rive-Nord, deux ingénieurs ont distribué de gigantesques pots de vin. Sylvain Neuvel, l'auteur à succès le plus méconnu du Québec. Air Transat veut acheter des hôtels. L'Amérique de Trump attire moins nos cerveaux. On commence avec le smog. Le temps froid est plus propice à l'accumulation de polluants. Le smog entraînera de plus en plus d'avertissements selon des météorologues. Les avertissements de smog comme celui lancé hier pour une bonne partie du sud du Québec seront de plus en plus fréquents avec l'arrivée du temps froid. On entre dans la saison la plus nocive pour la qualité de l'air. Le froid est propice à l'accumulation de particules fines, nocives pour la santé qui causent le smog, indique le météorologue Gilles Brien. La faible circulation de l'air et les vents inexistants aident à la formation de smog puisque les polluants se déplacent peu. Ce phénomène est surtout nuisible aux enfants asthmatiques et aux personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Les concentrations élevées de polluants sont quasi stationnaires et devraient persister jusqu'à mercredi, donc demain matin, a affirmé de son côté Michael Elliott, météorologue à Environnement Canada. Une dépression venue de l'Ontario viendra chasser le smog. Les régions concernées par l'avertissement sont la vallée du Saint-Laurent, la grande région de Montréal jusqu'à Montmagny, l'Estrie, la Montérégie et la Beauce. Au Québec, le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui contribuent au smog hivernal. L'activité industrielle et le transport sont d'autres facteurs. À Montréal, un règlement interdit l'usage d'un foyer à bois lorsque des avertissements de smog sont en vigueur. Dès le 1er octobre l'an prochain, ces foyers seront d'ailleurs complètement interdits dans la métropole québécoise, à moins d'avoir une certification attestant qu'ils ne rejettent pas plus de 2,5 g de particules fines par heure dans l'atmosphère. Il versait des pots de vin dans plusieurs villes des Laurentides. Deux collecteurs de fonds de l'ex-maire Gilles Vaillancourt avouent avoir versé des pots de vin non seulement à Laval, mais aussi dans de nombreuses villes de la couronne nord de Montréal, Mirabel et Saint-Hippolyte, La Chute, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Jérôme. Alors, un de ces pots de vin versés il y a plusieurs années à Saint-Jérôme atteindrait même la somme de 500 000 $. Personne n'avait admis avoir versé une aussi grosse ristourne illégale en argent comptant depuis l'éclosion de nombreux scandales de corruption dans les 10 dernières années. Ni à la commission Charbonneau, ni dans les divers procès de politiciens ou d'entrepreneurs accusés de fraude. Ce sont deux ex-cadres de la firme de génie conseil Texult, soit Marc Gendron et Roger Desbois, qui ont fait ces révélations au cours des dernières semaines dans le cadre du procès de l'entrepreneur Tony Accurso à Laval. Accurso est accusé d'avoir été un acteur de premier plan dans l'immense réseau de collusion qu'aurait dirigé Vaillancourt. L'entrepreneur n'est pas accusé d'être lié au versement de pots de vin dans les Laurentides, sauf que c'est son avocat, Marc Labelle, qui a réussi à tirer les vers du nez de messieurs Gendron et Desbois lors d'un contre-interrogatoire dans lequel il les questionnait sur leurs pratiques douteuses de développement des affaires. À Laval, autant Roger Desbois que Marc Gendron ont avoué avoir collecté les ristournes de 2 % des entrepreneurs au profit du parti de Gilles Vaillancourt. Ils ont aussi indiqué que les firmes de génie payaient une ristourne de 2 %. La chronique de José Legault intitulée « Qui aidera les aidants? » La Semaine nationale des proches aidants, vous connaissez? C'était il y a quelques jours à peine, mais on en a très peu parlé. Pas très sexy comme sujet, il faut croire. Au Québec, les aidants naturels frôlent pourtant les 2 millions de personnes, dont 64 % sont des femmes. Dans cette vaste armée d'aidants aimants, j'en suis une parmi tant d'autres, sans soutien ou trop peu. Après l'avoir retirée d'une ressource publique d'hébergement où sa santé était mise en danger, ma sœur handicapée intellectuelle habite en effet avec moi depuis des années. La vérité toute crue, c'est la croix et la bannière. Un fonctionnaire a même eu le culot de me lancer cette perle. « Vous êtes journaliste, vous? Pourquoi vous ne vous payez pas une Philippine à la maison? » Un bel exemple de déresponsabilisation et de déshumanisation. De fait, on attend toujours un plan concret pour les proches aidants. Vieillissement de la population, cri du cœur ou cri d'alarme, rien ne semble pouvoir faire bouger le gouvernement Couillard. L'ex-ministre libérale Marguerite Blais a pourtant raison. L'adoption d'une stratégie nationale de soutien aux proches aidants est urgente. Même sur le plan budgétaire, ce serait payant pour le Trésor public. L'État, donc nous, sauverait une fortune aux... sauverait une fortune aux urgences tout en préservant la productivité et la santé des aidants. À terme, l'État économiserait aussi beaucoup en évitant une partie des placements de personnes vulnérables, âgées ou handicapées de tous âges. Ces « placements », écrit entre guillemets, se font souvent en ressources intermédiaires, RI, privées, subventionnées par les fonds publics. Des RI dont la qualité est malheureusement à géométrie trop variable. Or, chaque place en ressources intermédiaires coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars par année en fonds publics. Un soutien actif des aidants, des répits et un vrai soutien à domicile ne coûterait qu'une fraction de ces mêmes coûts. Mieux aider les aidants améliorerait la qualité de vie de millions de Québécois. Sur les plans humains et comptables, la formule serait gagnante-gagnante. La réalité est toutefois aux antipodes. Pendant que les fonds publics pleuvent sur les médecins, les aidants naturels sont les parents pauvres du système de santé. Selon un sondage réalisé pour l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, 47 % des aidants se disent affectés psychologiquement et 36 % physiquement. Ça fait beaucoup de monde, et la plupart sont des femmes. Pas étonnant, une aidante ou un aidant porte tous les chapeaux à la fois. Amis, parents, conjointes, sœurs, infirmières, psychologues, cuisinières, secrétaires, préposées, gestionnaires, femmes de ménage, etc. Et de vraies vacances? On oublie ça. Liste d'attente interminable, répit rarissime ou inexistant. Détresse physique et émotive, isolement social, soutien financier familique, appauvrissement. Voilà le véritable lot de nombreux proches aidants. L'amour y est, c'est certain. Mais les ressources pour tenir le coup manquent tragiquement à l'appel. Y a-t-il un premier ministre qui, un jour, aidera enfin les aidants? José Legault, dans le Journal de Montréal. Des repas ethniques dans les CHSLD, chow mein, poulet tandoori et falafel pourraient bientôt arriver dans les CHSLD du Québec puisque le gouvernement a mandaté des étudiants en restauration pour créer des plats ethniques d'ici l'an prochain. L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, a reçu 100 000 $ pour mettre sur pied 40 repas provenant des cuisines caribéennes, asiatiques, méditerranéennes et principalement du Moyen-Orient. Ces repas s'ajouteront aux 72 autres déjà offerts par les établissements. « La nourriture doit être un plaisir », a dit Lisa Frula, directrice générale de l'ITHQ. Pour le PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal, Pierre Jveller, le besoin est pressant à Montréal pour une offre alimentaire plus variée. 50 % des personnes de notre territoire sont nées à l'extérieur du pays, souligne-t-il. ajoutant que les Québécois mangent eux aussi de plus en plus une cuisine variée. C'est pourquoi il a pris l'initiative de contacter l'ITHQ avec ce projet. Les repas ainsi préparés seront soumis à des « focus group » de résidents et de leurs familles pour sélectionner les 40 plus populaires. Et le groupe américain Mattel a présenté hier une poupée Barbie en l'honneur de l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, devenue en 2016 la première sportive américaine voilée à participer aux Jeux olympiques. Cette poupée arbore la tenue de l'escrimeuse ainsi qu'un voile, ce qui en fait la première Barbie voilée jamais fabriquée et vendue par Mattel. Elle sera commercialisée en ligne à compter de 2018, a déclaré une porte-parole.
J'ai regardé, j'ai même parfois touché. Quand il faisait trop noir, je suis retournée tenter encore une fois ma chance. Mais les gens ne pensent qu'à boire. Quand tout d'un coup le cinéma commence, chacun vit une histoire, ouais, dans les cinémas bas. On voit de tout, chacun joue le rôle dans a toujours rêvé. Va au cinéma, pas de temps café, jouer à devenir n'importe qui. J'ai vu des hommes se prendre pour des femmes dans les cinémas, pas. J'en ai vu d'autres insulter quand on leur dit madame. Mais comment peut-on savoir quand tout le bar m'abrège la bonne à son client troublé. Ensuite il reste rien de personnel qui fait tout oublier, ouais. Dans les cinémas pas, on voit de tout, chacun joue le rôle dont il a toujours rêvé. Va au cinéma pas de temps quartier, jouer à devenir n'importe qui.
Andrea Lindsay qui nous chantait les cinéma bars.
Alors, allons-y donc avec le parc Michel Chartrand, si populaire, si méconnu dans le Journal de Montréal, Alain Demers, très fréquenté par des résidents de Longueuil où il se trouve. Le parc Michel Chartrand, accessible par le boulevard Curé-Poirier, demeure méconnu ailleurs en Montérégie ou à Montréal. Pourtant, l'accès est gratuit. Le stationnement aussi. Il y a de beaux sentiers et on croise régulièrement des chevreuils. Coté 4,5 sur 5 dans le site TripAdvisor Canada, cet espace vert demeure une alternative aux parcs nationaux des îles de Boucherville et du mont Saint-Bruno pour avoir un contact avec la nature. Ce n'est pas aussi grand, mais on compte tout de même 20 km de sentiers pédestres et cyclables. C'est de plus un bon endroit pour le jogging et même pour la marche hivernale, une partie du réseau étant déneigée. Contrairement aux parcs nationaux, le parc Michel Chartrand ne ferme pas au coucher du soleil. Comme on n'a pas à se dépêcher pour sortir, on peut rester sur les sentiers durant la dernière demi-heure de la journée, le meilleur moment pour voir des chevreuils, cerfs de Virginie, de leur vrai nom. Nos randonnées sont souvent agrémentées par leur présence. Lors d'un inventaire en février 2017, on a dénombré 32 individus. La superficie du parc étant de 1,8 km², on parle donc de 18 têtes km², soit une concentration avantageusement comparable aux îles de Boucherville et à l'île d'Anticosti. Certains visiteurs ont tendance à les nourrir, ce qui est interdit dans le parc. L'une des raisons, c'est que la nourriture offerte, généralement pas appropriée, peut les rendre gravement malades. Les bêtes risquent aussi d'entretenir une relation de dépendance avec les humains. De toute façon, on n'a pas besoin de les nourrir pour en voir. Terminus Longueuil puis autobus pour se rendre au parc Michel-Chartrand, sentier, marche, jogging et vélo. En hiver, marche, raquette, ski de fond, patin, glissade, longueuil.québec/parc au pluriel pour avoir plus d'informations sur les parcs de la Rive-Sud à Longueuil précisément, plus particulièrement, et le parc Michel-Chartrand dont il était question ici. D'autres idées pour le week-end, du ski au Mont-Bruno, au Mont-Saint-Bruno. La saison est commencée à Ski Saint-Bruno, une option pour les plus pressés, les billets à l'heure. Le dimanche, il en coûte seulement 13 $ plus taxes de 17 h à la fermeture. skisaintbruno.ca pour plus de détails. Un corridor canin à Mirabel. Au parc du Domaine Vert, un trajet de 2 km sur les pistes 3 et 4 est autorisé aux randonneurs avec leurs chiens tenus en laisse. Une carte des sentiers est disponible à l'accueil. domainevert.com. Et patiner à l'Atrium Le Mille, la plus haute tour de bureau de Montréal au Mille de la Gauchetière, abrite une patinoire. Service sur place, casier et petit restaurant, ouvert le samedi soir, métro Bonaventure, www.lemille1000.com. Voyager sans souci, Lise Giguère dans le Journal de Montréal, 7 infos voyages à noter. Cette année encore, plus précisément entre le 15 décembre et le 7 janvier, Via Rail Canada ajoutera 6 départs à l'horaire du train L'Océan. Ce beau cadeau des fêtes devrait permettre à plus de gens de profiter du train pour visiter leur famille et leurs amis en toute sécurité et en s'offrant du même coup un moment de détente à bord du train, viarail.ca. Il serait peut-être bien de mettre à son agenda une petite visite en Abitibi-Témiscamingue entre les 22 et 24 février, alors que s'y déroulera le Festival des langues sales. À noter tout particulièrement dans la programmation le concours de bitchage de village. Pour plus d'informations, www.leslanguessales.com. D'autres infos, voyages à noter. Celebrity Cruises accepte maintenant que les couples de même sexe se marient à bord de ces paquebots, et ce, de façon tout à fait légale et reconnue par les autorités. Le forfait Nautical Nuptials at Sea comprend une cérémonie présidée par le capitaine, les services d'un coordonnateur d'événements, un photographe, un gâteau, une bouteille de champagne, un bouquet et une boutonnière, en plus du service de couverture romantique post-cérémonie. celebrityweddings.eweddingscalendar.com. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment s'évader au soleil pendant la période hivernale. Cet hiver, Air Canada offrira 74 vols par semaine vers la Floride, soit 4 fois par jour sur Fort Lauderdale, 6 vols par semaine sur Fort Myers, 2 vols quotidiens vers Miami, 5 vols par semaine sur Tampa et des vols quotidiens vers West Palm Beach. Les vols vers Cuba, Cayo Coco, Santa Clara reprendront en décembre. Des vols supplémentaires sont ajoutés vers le Mexique, Cozumel, Holguín, Punta Cana et Cancun. Aussi, un vol direct Montréal-Lima, Pérou, débutera le 16 décembre à raison de 2 vols par semaine. Enfin, Air Canada Rouge offrira 3 vols directs par semaine vers Phoenix, en Arizona, du 22 février au 28 mai 2018. Autre info, voyage à noter. Si vous n'avez pas voyagé depuis un certain temps, sachez qu'il n'est maintenant plus nécessaire de récupérer ses bagages enregistrés lorsqu'on entre au Canada via Toronto. Ces derniers sont automatiquement transférés sur votre prochain vol à moins d'indication contraire. Vous devez cependant avoir votre carte d'accès à bord pour votre prochain vol. Vos bagages doivent être étiquetés pour la destination finale et bien entendu, il ne doit pas s'agir d'une arme à feu ou d'un animal. Il faut cependant toujours remplir la formule d'immigration canadienne. Sixième info, comme chaque année, Kaleidoscope proposera en décembre des randonnées à pied de 90 minutes sous le thème de Noël. Cette année, les visites guidées sur l'histoire et les légendes de Noël se raconteront à partir de la symbolique des décors. Il faut obligatoirement réserver. Tour au pluriel, kaleidoscope.com. Finalement, le mythique navire de croisière Queen Mary II fait rêver. Comme il n'existe que peu d'informations en français sur ce navire, les blogueurs spécialisés en croisière Corinne Ancion et Guillaume Rueda ont publié à compte d'auteur le guide Queen Mary II, guide de voyage transatlantique. Ce guide s'adresse à ceux qui rêvent de voyager à bord de ce paquebot chargé d'histoire. On y trouve des secrets et plus de 100 photos. On peut le commander environ 40 $ ou le télécharger environ 18 $ sur www.escalecroisiere.wordpress.com. Le vote est lancé. Choisissez votre pâtisserie parisienne préférée. Easy Guiders veut connaître l'adresse qui est considérée par les consommateurs comme la meilleure pâtisserie de Paris. Une trentaine de repères sucrés célèbres comme la boutique des pâtissiers stars Christophe Adam, Yann Mengi, Claire Damon ou encore Pierre Hermé. La vitrine du magazine Fou de pâtisserie située sur Montorgueil ne manque pas l'appel avec son concept alléchant d'une collection éphémère de pâtissiers en vogue renouvelée régulièrement. On notera aussi la présence de la plus ancienne pâtisserie de Paris, Storer, Paris dans le 2e arrondissement, où l'on trouve l'historique Baba au rhum, désormais confectionné par Jeffrey Kang. Ceux qui n'y trouveraient pas la pâtisserie de leur quartier et qui souhaiteraient pourtant la soutenir peuvent ajouter le nom à la liste. Les votes sont ouverts à cette adresse www.easyguiders.com et seront clôturés le 21 novembre prochain. Alors, avis à ceux qui sont déjà allés à Paris ou qui souhaitent y aller, vous pouvez voter. Et Céline Dion fêtera son 50e anniversaire sur scène à Las Vegas. Elle se produira au Caesars Palace le 30 mars prochain, date à laquelle elle soufflera ses 50 bougies. La nouvelle a été annoncée hier, alors qu'on confirmait la tenue d'une nouvelle série de représentations au Colosseum. Les 26 concerts additionnels s'échelonneront du 27 mars au 9 juin. Les billets pour cette nouvelle série de spectacles seront mis en vente vendredi à 15h, heure de Montréal. Les membres du fan club de Céline Dion auront accès à une pré-vente qui débutera aujourd'hui à 13h. Le contrat de Céline Dion au Caesars Palace prend fin en 2019. Revenez-nous après la pause et la chanson avec les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux. Merci d'écouter Canal M.
Dimanche va sûrement arriver vite, mais déjà lundi semble bien loin d'ici. Comme ça, tu t'en vas à l'improviste, laissant un trou béant vers l'infini. Dimanche est trop loin pour voler tes bras, quand déjà demain tu me manqueras. C'est tellement trop loin pour te retrouver. Quand y a déjà demain qui se fait prier. Journée avec ta voix qui se promène entre mes deux oreilles. Est-ce que de là-bas tu m'entendras? Si je t'envoie des mots, si je t'appelle, dimanche est trop. Tellement trop loin pour te retrouver. Quand y a déjà demain qui se fait prier. J'aimerais garder l'empreinte de ton corps comme une caresse le matin aux aurores. C'est pour les moments. Tu manqueras nos rendez-vous cachés. Dimanche est trop loin pour voler tes bras. Quand déjà demain tu me manqueras. C'est tellement trop loin pour te retrouver. Quand y a déjà demain qui se fait prier. Dimanche est trop loin pour voler tes bras. Quand déjà demain tu me manqueras. C'est tellement trop loin pour te retrouver. Quand y a déjà demain qui se fait prier.
Vous venez d'entendre Mara Tremblay, la pièce En attendant dimanche.
Actualité internationale, séisme en Iran et en Irak, 421, c'est le nombre de personnes tuées lors du tremblement de terre qui a frappé la zone frontalière de l'Iran et de l'Irak dimanche soir. À l'approche du crépuscule hier, les autorités faisaient face au défi d'abriter et de nourrir des dizaines de milliers de personnes contraintes à coucher dehors dans la fraîcheur pour la deuxième nuit d'affilée. La France commémore les pires attentats de son histoire, des fleurs, des bougies et un silence brisé par un mini-concert des Eagles of Death Metal. La France a sobrement commémoré hier les attentats du 13 novembre 2015, les pires de son histoire, avec 130 morts et plus de 350 blessés. Sur la photo publiée dans la presse, Anne Hidalgo, maire de Paris, le président Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte et son prédécesseur François Hollande. Une rose blanche a été déposée sous une plaque en hommage aux victimes mortes au bar Carillon et au restaurant Le Petit Cambodge. Lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbes, minute de silence, échange avec les familles de victimes. Le président français Emmanuel Macron a respecté le même cérémonial sur chacun des lieux attaqués. 6 en tout. Un groupe qui s'affiche comme les musulmans contre le terrorisme a tenu un rassemblement devant la salle de concert du Bataclan. Des fleurs et des bougies ont été disposées au carillon, tandis que de rares personnes assistent à la cérémonie. Au Bataclan, elles n'étaient qu'environ 200. « I love you »,« Je t'aime », a lancé le chanteur Jesse Hughes dans un concert surprise de seulement deux titres, « Save a Prayer », le dernier morceau entier que le groupe avait joué il y a 2 ans avant que l'attaque en plein concert ne fasse 90 morts, puis « I love you all the time ». Les électeurs de la République autoproclamée du Somaliland ont voté hier pour élire leur président avec l'espoir que cette troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991 renforcera leur quête de reconnaissance internationale. Les responsables ont commencé le dépouillement des bulletins de vote après la clôture du scrutin vers 18 heures, heure locale. Un blocage des réseaux sociaux a été décidé par la commission électorale afin d'éviter toute ingérence extérieure et toute spéculation sur les résultats. La plupart des bureaux de vote sont fermés désormais et l'Internet est bloqué à la suite des consignes de la commission électorale. Dans toutes les régions du Somaliland, on ne peut utiliser les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, a déclaré un responsable de la sécurité, Mohamed Dahir. Le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, a estimé dans un entretien publié hier par le quotidien Le Soir qu'une autre solution que l'indépendance de sa région était possible, assurant être toujours pour un accord avec l'Espagne. « Je suis disposé et j'ai toujours été disposé à accepter la réalité d'une autre relation avec l'Espagne », a-t-il déclaré au journal, avant de préciser qu'il était prêt à envisager une autre solution que l'indépendance. « C'est toujours possible. » Moi qui ai été indépendantiste toute ma vie, j'ai travaillé pendant 30 ans à obtenir un autre ancrage de la Catalogne dans l'Espagne, a poursuivi M. Puigdemont. M. Puigdemont est parti en Belgique après la proclamation de l'indépendance votée au Parlement catalan le 27 octobre, suivi quelques heures plus tard par la mise sous tutelle de sa région par Madrid, qui a immédiatement ordonné sa destitution et celle de son gouvernement. La police française rapporte une augmentation des plaintes pour violences sexuelles et harcèlement dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein. Un responsable de la gendarmerie française a dit hier que le nombre de plaintes est en hausse de 30 % cette année par rapport à l'an dernier, surtout en octobre. Au moins 53 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées hier dans des raids aériens sur un marché d'une localité rebelle dans une zone de désescalade du nord de la Syrie, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus tôt dans la journée, cette ONG avait affirmé que 29 civils, dont 5 enfants, avaient perdu la vie à Atareb, sans être en mesure de préciser si ces frappes aériennes avaient été menées par des avions du régime du président syrien Bachar al-Assad ou de son allié russe. Atareb, située dans l'ouest de la province d'Alep et contrôlée par différents groupes rebelles, a été la cible de 3 frappes aériennes, a précisé l'ONG, estimant que le nombre de morts pourrait être revu à la hausse. Et finalement, la Maison-Blanche et des dirigeants d'entreprises énergétiques américaines ont défendu les énergies fossiles hier soir à la conférence climat de l'ONU à Bonn au cours d'une réunion qui a été perturbée par des défenseurs des énergies vertes. Il ne fait pas de doute que les énergies fossiles vont continuer à être utilisées, a déclaré George David Banks, assistant spécial du président Donald Trump pour l'environnement. Mais il est dans l'intérêt de tous que lorsque des énergies fossiles sont utilisées, elle soit aussi propre et efficace que possible, a-t-il ajouté, plusieurs fois interrompu par des militants au cri de « Vous êtes des menteurs et il n'y a pas de gaz propre ». Actualité culturelle, présentée en clôture du 23e Festival de films francophones Cinémania, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel a obtenu le prix Mel Oppenheim, attribué au film favori des festivaliers. L'acteur argentin Nahuel Pérez Biscayart, révélé cette année grâce à 120 battements par minute de Robin Campillo, était à Montréal pour accompagner la projection en primeur nord-américaine de cette adaptation du roman de Pierre Lemaitre. Au revoir là-haut prendra l'affiche le 22 décembre au Québec. Par ailleurs, signalons l'attribution du prix Jeunesse francophone TV5 décerné par 7 diplômés d'université et d'école de cinéma à Petit Paysan, un film d'Hubert Charuel. Michael Bublé effectuera un retour sur scène l'été prochain. Le chanteur canadien a indiqué s'être engagé en vue de concerts à Dublin et à Londres en juillet 2018. Cette annonce survient un an après que Michael Bublé eut révélé que son fils était atteint d'un cancer. Le chanteur et son épouse, Louisana Lopilato, avaient alors indiqué qu'ils mettaient leur carrière en veilleuse le temps que Noah, aujourd'hui âgé de 4 ans, subisse des traitements pour sa maladie. Le Grand Prix du Livre de Montréal a été remis hier lors d'une cérémonie à la Chapelle historique du Bon Pasteur à René Lapierre pour son recueil de poésie « Les adieux » publié aux Herbes rouges. Le jury, présidé par l'auteur Catherine Mavrikakis, a qualifié l'œuvre de René Lapierre de puissante, effrayante, de beauté et surtout capable d'une grande hospitalité envers la vie. Les œuvres finalistes de 2017 étaient « Des chants pour Angel » de Marie-Claire Blais, Images à Mallarmé de Jacques Brault, Le jeu de la musique de Stéphanie Clermont et Montréal Mirabel, ligne de séparation de Marie-Pascale Huglot. Le Grand Prix du Livre de Montréal, créé en 1965 pour promouvoir l'excellence en création littéraire québécoise, est doté d'une bourse de 15 000 $ et de 1 000 $ pour chacun des finalistes. Dans le chant amoureux de Catherine Chabot, mise en scène de Frédéric Blanchette, à Espace Libre jusqu'au 25 novembre, le critique Mario Cloutier accorde à cette pièce 4 étoiles sur 5. Triangle du désamour. Après Table rase, Catherine Chabot confirme son talent d'auteur et de comédienne dans sa nouvelle pièce Dans le chant amoureux. 2017, un jeune couple, un lit comme arène de boxe au centre de la salle. Dans le coin gauche, une romancière débutante. Dans le coin droit, un doctorant en philosophie. En coulisses, l'ex-copain de la jeune femme. Si triangle il y a, c'est celui du désamour. Un triangle des Bermudes relationnel où ça chauffe, ça explose et où tous les coups sont donnés. Après avoir ciblé un groupe de jeunes femmes qui fait table rase dans sa première pièce, Catherine Chabot fouille le lit défait d'un couple en déroute. Poursuivant son approche hyper réaliste des relations humaines, son texte réalise une mise à nu totale, au propre et au figuré, des petites et grandes misères de la vie à deux. Entendre la voix de Catherine Chabot, c'est constater à quel point rien ne change sur la planète couple. Routine, infidélité, mensonge et hypocrisie, compromis et victimisation, mesquinerie et égoïsme. Le propos est cru, sauvagement drôle par moments, et la conclusion inévitablement triste. Les trois acteurs, Catherine Chabot, Francis William Réaume et Fayol Junior Jean, sont excellents. Dans l'ordre, elle est idéaliste, hyperactive et jalouse. Lui, brillant mais condescendant, l'ex, candide et amoureux transi. Les trois sont à peine matures, mais déjà brûlés par l'expérience du couple. Catherine Chabot ou Chabot possède une parole intelligente, sensible mais aussi grinçante, qui s'avère déjà essentiel dans la dramaturgie québécoise actuelle. Et dans le devoir Bête féroce de l'espoir, Fils en liberté, une autre Catherine qui signe cette pièce de théâtre, cette fois Catherine Léger, mise en scène Patrice Dubois. C'est une production du théâtre Petit à Petit à la Licorne jusqu'au 2 décembre. Et la critique Christian Saint-Pierre, le critique, écrit, et je vous en lis quelques passages. Il raconte donc l'histoire dans l'appartement urbain et non meublé de Mélie, incarnée par Catherine Saint-Laurent, une jeune femme qui aspire à s'installer en banlieue pour devenir mère au foyer, se réunissent régulièrement Nick, Étienne Pilon, son compagnon qui enseigne le cinéma au Cégep, Cynthia Laetitia Isambert, sa meilleure amie étudiante en droit et Pascal Christian Heuroy, le meilleur ami de Nick qui enseigne l'histoire de l'art, lui aussi au Cégep. Parfois, Millie et Cynthia vont prendre un verre avec Chris, Clara Prévost-Dubé, leur ami d'enfance, autrefois hygiéniste dentaire et désormais webmestre. Autour de tout ce beau monde composé de vingtenaires et de trentenaires, rôde Alain, Hugues Frenette, le concierge en pleine crise de la quarantaine. Les mésaventures de cette galerie de personnages détestables et pourtant attachants, défendus avec beaucoup de conviction et de nuances, permettent à l'auteur d'aborder des sujets aussi divers que le rôle de l'art, l'impact de la pornographie, le rapport à l'histoire, la quête de la performance et la soif de transmission. Avec son sens inouï du comique, son art de la réplique qui claque, mais surtout son parfait dosage de bouffonnerie et de gravité détonnante, juxtaposition d'enjeux intimes et collectifs, mais surtout politiques et féministes, Catherine Léger est en train de donner naissance à un genre aussi drôle qu'intelligent, une sorte de comédie sociale que l'on rêve de voir envahir les théâtres d'été et les festivals d'humour. Alors ici, on parlait de la pièce « Fils en liberté » de Catherine Léger, présentée à la Licorne, et l'autre pièce, celle de Catherine Chabot, est présentée à Espace Libre. Les journaux régionaux, une exclusivité dans Le Soleil d'aujourd'hui. Annie Morin et Annie Mathieu qui signent le texte intitulé « Trois fois plus de salariés à 100 000 $ à la Ville de Québec ». Le nombre de salariés de la Ville de Québec gagnant plus de 100 000 $ par année a plus que triplé depuis 2010. Un employé sur 8 se retrouve maintenant dans ce club sélect. Chez les policiers, de loin le groupe le plus représenté, le tiers de l'effectif a un salaire dans les 6 chiffres. Le Soleil a demandé et obtenu en accès à l'information un tableau détaillant le nombre d'employés municipaux ayant reçu une rémunération annuelle globale de plus de 100 000 $. La rémunération globale inclut le salaire de base, les heures supplémentaires, les bonis, les allocations, les règlements de grief et les primes de départ. Une quinzaine de catégories d'emplois sont représentées des élus au personnel manuel en passant par les cadres, les policiers et les pompiers. Depuis le début de la décennie, on constate ainsi une hausse marquée du nombre de hauts salariés à la Ville de Québec. Alors que 220 personnes gagnaient plus de 100 000 $ par année en 2010, il y en a aujourd'hui 681 et l'année 2017 n'est pas complétée. Leur poids sur l'ensemble des employés a aussi augmenté, passant de 4,2% à 13,6%. Un bond a été remarqué en 2016 après le renouvellement de plusieurs contrats de travail. À titre de comparaison, environ 6 % des travailleurs québécois déclarent un revenu dans les 6 chiffres. Alors, le tableau qui est dans le bas de ce long article, nombre d'employés municipaux payés 100 000 $ et plus, catégorie d'emploi, élus, juges, direction générale et direction de services, cadres, professionnels syndiqués, professionnels non syndiqués, contremaîtres et surintendants, commissariats aux incendies, fonctionnaires, personnel manuel, personnel policier, cadre pompier, avocat, relations de travail. Total, 220 en 2010 et 681 en 2017. Dans le Nouvelliste de Marc Rochette, la pauvreté, une loterie qui ne fait que des perdants. C'est sous le thème des jeux de loterie que le collectif de lutte contre la pauvreté du Centre du Québec a lancé lundi sa 5e campagne de cartes de Noël. Illustrée par l'artiste Mathilde Saint-Mars, celle-ci expose le portrait de 4 personnages en situation de pauvreté. Ainsi, Michel, le personnage qui reçoit des prestations d'aide sociale, est perdant à tous les mois. Malaïka, qui travaille à temps plein toute l'année, n'a pas de célébration, alors que Suzanne, jeune retraitée, tourne la roue de l'infortune et que la famille Tremblay-Diaz ne peut s'offrir rien d'extra. Selon les organisateurs, la référence à la loterie rappelle l'implacable réalité selon laquelle la pauvreté n'est pas un choix et que pour l'éliminer, ce n'est pas de chance que le Québec a besoin, mais de volonté politique. On est loin de la simplicité volontaire qu'on a idéalisée. Les causes de la pauvreté plongent ses racines au cœur des logiques capitalistes et des idéologies néolibérales qui caractérisent nos sociétés occidentales, précise le co-responsable du collectif, François Melançon. La pauvreté est comme un gratteux, sans lot gagnant, renchérit Linda Proulx du regroupement de défense des droits sociaux de Nicolette. Témoin de situations de pauvreté, cet organisme participe à la campagne, tout comme les corporations de développement communautaire de Nicolet Yamaska et de la MRC de Bécancour, le Centre d'action bénévole, la Ressource aide alimentaire et le diocèse de Nicolet. Ces organisations distribueront au cours des prochains jours les 4 sortes de cartes auprès de leurs membres et de la population en général, incitant les citoyens à les expédier au député Donald Martel. C'est une façon de rappeler la nature politique des enjeux de la pauvreté, alors que le gouvernement tarde toujours, avec plus de 2 ans de retard, à publier une nouvelle politique d'action gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui pourrait faire une différence significative, a-t-on fait savoir. Une personne sur 10 ne peut couvrir ses besoins de base que sont notamment l'alimentation, le logement et l'habillement. Une réalité indécente, dénonce M. Melançon. Métier mitrailleuse à bord, mitrailleuse de bord, c'est dans la Tribune Marie-Christine Bouchard et c'est la une de la Tribune d'aujourd'hui. La cherbrouquoise Alexandra Roy est la première femme à occuper le poste de mitrailleuse de bord au 430e escadron tactique d'hélicoptères basé à Valcartier et probablement la première femme à le faire dans toutes les forces armées canadiennes, FAC. Les mitrailleurs de bord, mieux connus sous leur appellation anglophone de « door gunner », sont très peu nombreux. Sur 6000 militaires qui travaillent à la base militaire de Valcartier, il n'y a que 7 postes de mitrailleurs de bord. C'est un grand privilège quand on se voit offrir ce poste, souligne la caporale de 30 ans qui a joint les FAC il y a 4 ans seulement. Quand on m'a proposé ce travail, je ne voulais absolument pas rater cette occasion. Ajoute la jeune militaire qui avait complété son baccalauréat en graphisme à l'Université Laval avant de s'engager dans les FAC. Les militaires qui exercent des métiers de combat peuvent occuper le poste de mitrailleur de bord de l'aviation tactique pendant 2 ans. Alexandra Roy a terminé sa formation et participe maintenant aux exercices pour peaufiner ses aptitudes, notamment celui du repérage des ennemis au sol et de la communication avec les pilotes de l'hélicoptère. Alexandra Roy vole à bord des Griffons, des hélicoptères utilisés pour le transport tactique et qui peuvent aussi transporter jusqu'à 13 personnes, soit 2 pilotes, un mécanicien de bord qui a le mandat d'assurer la sécurité à la droite de l'appareil et 10 passagers. Le travail d'un door gunner est d'assurer la sécurité de l'hélicoptère du côté gauche. Et dans le quotidien, des citoyens contestent la démolition d'un monument à Dolbeau-Mistassini. Un groupe de citoyens s'oppose à la démolition de l'Observatoire commémoratif des Pères Trappistes situé à l'extrémité du pont de Dolbeau-Mistassini. Le ministère des Transports prévoit raser ce bâtiment construit en 1992 pour souligner le 100e anniversaire de l'arrivée de cette communauté religieuse. Alors, j'imagine que ce bâtiment n'a pas été construit en 1992. C'est bien ce qui est écrit, mais j'imagine que c'est plutôt 1892. Cette démolition est réalisée dans le cadre des travaux de 55 millions visant à remplacer le pont qui enjambe la rivière Mistassini. Et à la une du droit, des sinistrés pourront reconstruire en zone inondable. C'est un texte de Julien Paquette. Des sinistrés des inondations historiques du printemps dernier pourront reconstruire leur maison en zone inondable. Le programme de dérogation collectif du gouvernement du Québec, dévoilé lundi, permettra à plusieurs propriétaires d'éviter la démolition. Merci d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service quotidien. Ici Hélène Denis. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et moi, je vous retrouve, si vous nous écoutez en direct, à l'émission Les Paractualités. À tantôt.